Patrice qui?
Non, Patrice Lumumba, vous ne connaissez pas?
Non.
Non.
Jamais entendu parler.
Est-ce que le nom de Patrice Lumumba vous dit quelque chose?
Non.
Rien du tout. D'accord.
J'ai pas compris.
Patrice Lumumba, le nom de Patrice Lumumba, c'est un personnage historique et on se demande si vous le connaissez ou pas.
Non.
D'accord. Okay. Bah, un grand merci. Est-ce que le nom de Patrice Lumumba vous dit quelque chose?
Oui.
Vous pourrez nous en dire juste un peu plus sur qui il a pu être?
Non.
D'accord, un grand merci.
On est en janvier 61. Lumumba, premier ministre du Congo indépendant, a été limogé. Sous la pression des milieux d'affaires belges, il est arrêté, puis livré aux Katangais, ses ennemis. Il est assassiné avec deux de ses compagnons et Gérard Zout est chargé de faire disparaître les corps. Gérard Zout était policier au Congo belge. Après l'indépendance, il entre au service du gouvernement sécessionniste Katangais. Il est commissaire et doit donc obéir aux ordres du ministre de l'Intérieur.
Terminer avec l'affaire Lumumba. Je ne veux plus en entendre parler.
Gérard Zout est l'homme qui a découpé Lumumba en morceaux sur ordre de la Belgique. En guise de souvenir, il en porta deux dents. Ces dents furent l'objet de nombreux débats avant d'être récupérées par l'État belge, et ce, depuis 3 ans. Pourtant, une grande partie des Belges ignore encore le nom de Patrice-Emery Lumumba. Ces dents ne sont toutefois pas les seules reliques humaines conservées par la Belgique et oubliées par ses habitants. Aujourd'hui encore, 300 crânes de Congolais tués lors de la colonisation stagnent dans nos musées et universités. Pour en savoir plus, nous avons mené l'enquête à l'ULB avec Martin Van der Elst.
Oui, bonjour, je suis en contact avec le bureau de l'étudiant administrateur. Oui, voilà, bonjour. On aurait voulu vous rencontrer parce qu'on fait une émission avec Radio Étudiante sur les crânes qui sont conservés ici à l'ULB. Et on aurait voulu pouvoir rentrer en contact avec le laboratoire d'anthropologie. Je sais pas si vous pouvez nous ouvrir la porte.
Ah oui, d'accord.
Je vous remercie.
Voilà, un dessin. Ça sent déjà le formidable. Anthropologie. Ah, parce qu'il doit y avoir.
Ah, bonjour.
Vous êtes du bureau?
On vous suit.
Oui.
Bonjour.
Bonjour. Martin Van der Elst, je suis anthropologue.
Et Cyril Wijnjans, je suis étudiant ici à l'ULB.
Je suis la secrétaire de l'ULB, là.
Ok, super. En fait, on vient parce qu'on fait une émission sur les crânes congolais, qui sont les 14 crânes qui sont présents dans les collections du laboratoire d'anthropologie physique et de génétique humaine.
Oui.
Vous partagez le locaux avec eux.
Oui,
on a essayé de les contacter à plusieurs reprises, mais
oui,
on n'a pas...
J'ai entendu le téléphone qui a sonné.
Oui, c'était moi ce matin, oui, c'était moi, oui.
Et vous avez entendu parler de ces histoires?
Des crânes congolais retrouvés à l'ULB.
Oui, ils font partie des collections d'anthropologie physique, en fait. Mm-hmm. C'est un journaliste, donc Michel Bouffiou, il y a eu tout un colloque ici à l'ULB.
Oui, mais moi je ne suis pas très...
Non. Non.
Je suis pas une référence en.
Non, je sais bien, mais comme ça avait fait un peu l'actualité, je me disais peut-être les étudiants administrateurs en tant qu'étudiants et responsables politiques à l'université, ils avaient un peu entendu parler de ça.
Non, mais peut-être, je suis pas.
Vous avez pas entendu quoi qu'ils en auraient parlé?
Personnellement, non, mais non. Je parle pas au nom de tout le B.
Non, bien sûr.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont ces crânes?
Ils ont un problème de restitution. C'est quand même 14 crânes congolais dont on ne connaît pas trop la provenance de base, l'origine.
Oh oui.
Mais on sait que c'est issu de la période coloniale et ils sont encore conservés ici.
Ah, ok.
Et donc voilà, il y a quelques questions à poser.
Et quand on va rendre tout le musée africain, plus toute l'avenue Tervurane,
En tout cas, là, il s'agit de l'ULB.
En fait,
c'est des personnes qui ont été décapitées et homicidées dans les conquêtes coloniales.
Ouais.
Et donc c'est un peu étrange qu'une université conserve, vous voyez, en Angleterre, au Canada, en Australie, les restes ont été restitués aux communautés dont sont les ancêtres pour qu'ils puissent être enterrés et que le deuil puisse avoir lieu. Et ici, ces restes sont là.
Non, mais vous avez fond. Et ils sont où ces crânes?
Ils sont dans les collections, donc c'était un peu la question que nous on avait. Donc on sait qu'ils sont en dépôt dans les collections du musée.
Oui, mais physiquement, ils sont.
C'est ça qu'on sait pas.
On ne sait pas.
Vous savez pas où ils sont en plus?
Non.
Ça c'est intéressant.
Donc c'est vraiment une recherche, quoi. C'est...
Donc vous les cherchez,
hein? Juste les crânes.
Ouais. Donc vous avez... Et comment vous avez eu cette info?
C'est un article de Michel Bouffier,
C'est qui Michel Bouffier?
Toute l'affaire commence avec le crâne d'un monsieur qui s'appelle Luzinga, qui a été assassiné et décapité par George Emil Storms, qui a sa status quermeus, qui est en fait un tortionnaire et un criminel de guerre.
Ouais.
Et ce crâne était un peu connu, mais de quelques initiés. et autour de la rénovation du musée royal d'Afrique centrale. On est quelques-uns à avoir parlé de ça à Michel Bouffioza, mais si tu faisais une enquête...
Et donc ?
Et donc, nous, on avait connaissance de la présence de Luzinga. Et donc, lui a fait une enquête. Et ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y a 300 crânes, en fait, qui ont été récoltés à plusieurs moments. Donc, au tout début, avant la conférence de Berlin, donc c'est dans les fins du 19e, oui. Quand les Belges essaient d'avoir des contrats de sécession de chefs congolais sur des points stratégiques, il y a beaucoup de massacres qui sont commis. Oui. Et puis, il y a eu la construction d'un chemin de fer, où il y a eu 200 Congolais qui sont morts. Il y a aussi des anthropologues de l'ULB qui ont récupéré des crânes pour les collections ethnographiques. Et donc, il y a eu toute une anthropologie des crânes qui visait à construire des hiérarchisations raciales pour construire des formes de gouvernement des populations congolaises.
Ok, très bien.
Merci.
Un grand merci,
un grand merci en tout cas. Bonne journée.
Oui, bonne journée.
Au revoir. Ok.
Non, c'est pas fini. Peut-on faire le portrait de nos ancêtres? Reconstitution du squelette, les os d'hommes fossiles sont généralement... Ah oui, on ne sait plus sortir. On se rend nos empaillés.
Ok.
Bah écoute, ouais, c'est bien d'avoir entre les éléments d'enquête. Quoi.
Bah oui, mais c'est parce que la base de mathématiques, c'est ça, c'est la disparition en général. Merci. Et je partais sur les dents de Lumumba, mais ça s'élargit à la disparition du traitement de la colonisation.
Bah, c'est une bonne question parce que c'est vrai que tu vas simplement essayer de retrouver ces crânes. Mm-hmm. Ça va déjà mettre en place tout un réseau d'occultation de.
Ouais, bien sûr. Ouais, parce que c'est vraiment à ça que j'ai été confronté ce matin, quoi. On me renvoyait la balle à gauche, à droite, on me disait ça, ici, et va voir là, et puis va voir lui.
Je me dis, pourrait y avoir des actions comme ça à l'ULB, où il y aurait des affiches.
Oui.
Tu, je sais pas, tu mets deux grands auditoires ici, pour entrer dans ce petit histoire. À 500 mètres se trouvent des crânes de Congolais assassinés dans le cadre de l'expansion coloniale.
Ouais, parce que, regarde, on sait même pas où ils sont, ces crânes, quoi. Et même là une des responsables en entrepôt, même si c'est au niveau étudiant administratif, elle ne sait même pas. C'est un peu perturbant.
Parce que c'est peu médiatisé. Hein.
Ouais. Mais est-ce que c'est peu médiatisé parce que ça n'intéresse pas ou parce que ça fait peur une remise en question aussi
énorme. Moi, je pense que c'est les deux. Je pense que ça fait peur au niveau administratif. Mm-hmm. Moi, j'avais rencontré l'ICATA.
Ouais.
Un peu avant la table ronde qu'on voulait faire. Mm-hmm. Il était quand même fort paniqué. Et je pense aussi qu'il y a un désintérêt qui est lié un peu à l'histoire coloniale elle-même, quoi.
Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une disparition de l'histoire coloniale belge, hein?
Oui, il y a une disparition. Il y a plusieurs disparitions. Il y a d'abord la disparition de la mémoire des victimes et des résistants. C'est-à-dire, on ne sait pas les noms, on nous dit qu'il y a 14 crânes, on ne sait pas les contextes. Par exemple, Luzinga a très longtemps été présenté comme un esclavagiste dans la propagande coloniale. C'était une façon de justifier le crime. Aujourd'hui, on commence à se rendre compte que cette accusation d'esclavagiste était une accusation propagandaire, qu'en fait, quand on recontextualise, on se rend compte que Luzinga est en fait un chef autochtone local qui résiste à l'impérialisme belge. Donc, les mémoires sont enfouies parce que ce sont les vainqueurs qui les écrivent. Et il y a une seconde disparition, qui est une disparition de la relation avec le Congo contemporain. C'est-à-dire qu'il y a très très peu d'études sur la mémoire des crimes coloniaux au Congo, la mémoire orale. On sait pourtant que, par exemple, là pour le cas de Luzinga, les descendants, c'est 5 générations. Il y a un témoignage que Michel Bouffioux a publié d'un de ses descendants, j'ai oublié son nom, qui explique qu'il connaît cette histoire, parce que ses grands-parents lui ont raconté l'histoire de son propre grand-père. Et donc ce sont des témoignages précieux, oraux, qu'on a, qui sont véritablement importants. Dans les sciences sociales, on apprend à donner une importance à la mémoire orale. On sait que la mémoire écrite est toujours idéologique. Donc en Belgique, on a les traces des archives coloniales, donc de Storms. Donc ils sont tous des gens qui, d'emblée, vont blanchir les crimes coloniaux, qui sont eux-mêmes dans un discours qui vise à expliquer les raisons pour lesquelles il était légitime d'aller exploiter un pays. Donc c'est la seconde disparition, elle est celle-là. Et puis il y a une disparition une invisibilisation du racisme contemporain. On ne fait jamais le lien avec pourtant, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti il n'y a pas longtemps qui parle d'un racisme endémique en Belgique. On le voit, ça c'est tout le travail du collectif Mémoire Coloniale sur les noms de colons. On disait la statue de Storms qui est au Square Meuse. Donc il y a une présence dans l'espace public.
Donc il y a une invisibilisation, il y a une non-connexion avec cette histoire-là. Et pour moi, ce qui est le plus important, c'est que la revisibilisation a à voir avec la réhumanisation. Donc, il ne s'agit pas d'objets. Il s'agit de restes humains, de personnes qui appartiennent à des collectivités, qui ont une mémoire, qui ont une place dans l'histoire passée, dans l'histoire contemporaine. Et donc, pour moi, l'invisibilisation, elle est liée à la déshumanisation et elle est la conséquence du racisme, puisqu'il s'agit toujours de considérer l'autre avec un regard neutralisé par la science. Et on sent la peur quoi, d'avoir affaire à un autre. Là, le cas des demandes de restitution pour le Lusinga, il est clair, c'est qu'on sent que les institutions ont peur de faire face à des descendants. À faire face à des descendants, est-ce que ces descendants ont un droit à la réparation et à la restitution? Et donc, ils ont une possibilité de venir parler dans le débat ici en Belgique et d'avoir un impact sur la façon dont on pense notre propre histoire. Et on sent pour l'instant une grande, grande difficulté à reconstruire le dialogue. Felwinsar disait beaucoup que la restitution, son objectif final, c'est la restauration. La restauration de la mémoire, la restauration de la relation à l'autre, la restauration de la relation à l'Afrique. Je pense que si vous faites un micro-trottoir sur la perception des étudiants blancs de l'ULB de l'Afrique, ça doit être une catastrophe. Donc voilà, ce sont toutes des questions qui sont reliées et qui ont à voir avec des multiples disparitions. Les penseurs en Amérique latine parlent souvent d'épistémicide. Donc c'est pas seulement qu'il y a des crimes de guerre, mais qu'il y a vraiment une destruction de la mémoire, parce que les objets qui sont ici à Tervuren, ce sont aussi des porteurs de philosophie, des porteurs de connaissances, et pas simplement des œuvres d'art ou des objets dont on ne pourrait parler que par expertise coloniale.